Au fil des pages.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour, nous recevons aujourd'hui Christophe Mirambeau pour son livre sur Albert Wilmette, un livre primé par la Fondation Torlai, fondation de l'Institut de France. Un livre qui n'est pas ordinaire, ni pour son sujet, ni dans sa forme. Christophe Mirambeau, bonjour.
Bonjour.
Je disais donc que votre livre sort de l'ordinaire. Vous vous attachez en effet à décrire le parcours musical et de parolier d'Albert Wilmette, parolier populaire de l'entre-deux-guerres, et vous le faites de façon quasiment scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas à proprement parler une biographie, même pas du tout, et plutôt un décortiquage minutieux du travail d'Albert Wilmette, avec même des tableaux comparatifs à la pluie. Qu'est-ce qui vous a mené à ce genre de travail? Ça n'avait pas été fait auparavant?
D'une part, ça n'a pas été fait. De l'autre, c'est très très intéressant de s'intéresser de manière scientifique à un sujet réputé léger, réputé sans importance. Et c'est justement parce que c'est in abstracto sans importance qu'il faut le faire avec un sérieux maniaque. Il faut le faire avec le plus de soin possible, et parce que c'est la seule occasion peut-être qu'on aura de le faire, et on ne peut pas se permettre de le rater, tout simplement.
C'est un travail, on verra plus tard, qui a été long et très minutieux. Vous-même, vous avez signé des productions à l'Opéra Royal de Wallonie, vous avez une formation classique, musicale au Conservatoire de Toulouse, mais pas seulement, vous avez aussi fait de la mise en scène. Qu'est-ce qui vous rapproche d'Albert Wilmette? Pourquoi vous êtes intéressé à ce parolier-là en particulier?
Celui-là, d'abord parce que je l'ai découvert il y a très longtemps, quand j'étais beaucoup plus jeune. Ça me faisait rire, je ne savais pas pourquoi, mais ça me faisait rire. Voilà. Ensuite... J'ai travaillé à différentes occasions sur des pièces qu'il a écrites, et à chaque fois que je travaillais dessus, je me disais que c'était quand même fantastiquement écrit, avec adresse, avec talent, avec esprit, que ça s'adressait à Monsieur Tout-le-Monde, et pourtant que c'était plein de culture, que c'était des ouvrages qu'on pouvait lire à différents degrés, et que ça méritait largement d'autres opérettes et comédies musicales du 19e siècle, qui n'étaient au répertoire que parce que elles étaient du 19e siècle et que donc ça avait sa légitimité institutionnelle.
Donc vous, en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène, vous êtes intéressé par le travail d'Albert Wilmette parce que vous souhaitez un peu démythifier son travail ou au contraire en montrer l'ampleur ça...
En montrer l'ampleur, je pense que c'est le fondateur de toute la comédie musicale française du 20e siècle. Je pense que c'est le fondateur de... toute l'école de la chanson française, pour des raisons formelles, techniques. Et c'est un auteur dont tout le monde connaît les chansons et dont personne ne connaît le nom. Alors c'était un peu rigolo de mettre un nom sur ses chansons et de faire un travail technique, littéraire et évidemment musical, parce que l'importance de son travail littéraire a une influence considérable sur les partitions qu'il demande à ses auteurs, à ses compositeurs. Voilà.
Oui, enfin, on dit qu'Albert Wilmette c'est un homme oublié, pas tout à fait. Enfin, vous le dites vous-même, ses chansons sont quand même très très connues. Il y a eu un ou plusieurs livres qui ont déjà été écrits, et il a un prix à son nom puisqu'il a présidé, vous le rappelez, la SACEM pendant 10 ans après la Libération. Et il y a quand même plus récemment encore des sites internet qui lui sont consacrés entièrement. Alors pourquoi dire que c'est un homme oublié réellement? Il est passé aux oubliettes.
Son œuvre n'est pas oubliée. L'homme est oublié, et dans l'œuvre, on a un peu tendance à ne jouer que les 5 mêmes tubes, qui sont Dédé, Fifi, là-haut, ta bouche. Et pour ces chansons, on en reste un peu à ces grands tubes, comme Mon homme, évidemment, l'invraisemblable succès de Mistinguett en 1920 dans la revue du Casino de Paris, qui a été créé ensuite aux Ziegfeld Follies par Fanny Brice. Et repris par Barbara Streisand dans les années 80-70 avec le succès qu'on sait. Il y a aussi dans La vie, faut pas s'en faire, il y a toutes les chansons de Chevalier, il y a des chansons pour Joséphine Baker, il y a La Félicie aussi de Fernandel, il y a toute la série de chansons pour les frères Jacques, La violoncelliste, Elle faisait du striptease, etc. Mais il y a plein de choses autour qui sont parfois d'un intérêt équivalent voire supérieur et qui méritaient d'être un peu mises à jour. Retrouvé. Et puis, c'est un auteur qui a collaboré avec d'autres artistes d'aussi grande importance que lui, tels que Sacha Guitry. C'est un artiste qui était, je vais employer une formule extrêmement bateau, extrêmement convenue, mais qui donnera l'ampleur de l'importance de Wilmette en son temps, c'était le roi de Paris. C'est-à-dire qu'il est tellement dans le paysage, il fait tellement partie du paysage parisien, artistique et français, que finalement il a disparu de toutes les biographies, il est à peine cité dans les ouvrages qui parlent du temps, dans les ouvrages qui parlent des bouffes parisiens. Il est tellement là, c'est tellement une évidence qu'il n'y a pas besoin de le dire parce que tout le monde le sait. Simplement, 40 ans après, personne ne le sait plus. Donc c'était rigolo aussi, d'un point de vue historique, de remettre dans le vrai contexte le personnage.
Et du coup, j'imagine que votre travail d'archive était d'autant plus difficile à effectuer. C'était un travail de fourmi que vous avez fait pour écrire ce bouquin.
Oui, c'était un travail de fourmi parce que déjà, on n'avait pas l'exacte mesure quantitative de son œuvre. C'est-à-dire que actuellement, je suis en train de préparer le second volume de l'ouvrage que vous avez en main, qui sera consacré au musical, à la revue et à la chanson. J'ai calculé 2700 et quelques chansons, et je pense que le compte n'est pas juste, parce que je continue à chercher.
Il y a
des tas de collaborations, donc on n'était pas du tout sûr de toutes ces pièces. Lui dit « Oh, j'ai écrit 100 opérettes ». Bon, mais non, il en a écrit exactement 80. Les états des lieux précédents indiquaient, il en a fait 78. Bon, j'en ai trouvé deux de plus, qui étaient un peu passés à la trappe pour tout un tas de raisons historiques. Bon, alors donc, ça a été le premier temps déjà, établir quelle est la réalité de l'œuvre de cet homme et à quoi ça correspond. Et ensuite, il a fallu trouver les matériels, parce qu'évidemment, énormément de ces choses-là ne sont pas enregistrées.
C'est ça, c'est toute la difficulté de travailler sur un répertoire populaire
qui n'est
pas archivé.
Voilà, et en même temps, c'est ça qui est fascinant, forcément, parce que ce répertoire-là a quelque chose d'intéressant en soi, c'est qu'il est, au fond, le miroir de son temps. Voilà, il est le miroir de son temps, il nous raconte plein de choses sociologiquement sur l'époque dans laquelle ça a été créé. Et on perçoit le monsieur tout le monde de 1921 ou de 1947 à travers ces ouvrages-là, parce que c'est extrêmement inscrit dans une réalité du temps. Donc il a fallu chercher tous les ouvrages manquants, reconstituer les manuscrits, essayer de retrouver des choses qui ont disparu depuis 70 ans de chez les éditeurs. Donc c'était tout un travail comme ça, un peu Sherlock Holmes. C'est un peu le Sherlock Holmes du musical.
Nous allons entendre un premier extrait que vous avez choisi de quelque chose qui n'est pas répertorié, c'est-à-dire qu'il est hors commerce, c'est ça? Comment vous l'avez trouvé alors, cet extrait de Fifi qu'on va entendre?
Alors nous allons entendre en effet un extrait de Fifi qui est le premier grand succès d'opérette d'Albert Villemette en 1918, créé le 12 novembre 1918, c'était prévu pour le 11, mais il s'est passé quelque chose ce jour-là évidemment, qui a un peu empêché la création. Et c'est le grand succès, le grand tube, le nombre de milliers de représentations ne se compte plus à travers le monde depuis la création. Cet extrait que nous allons entendre est tiré d'une fantaisie sélection en deux faces de 1933 qui est hors commerce parce que maintenant c'est un type de disque qu'on ne commercialise plus, mis à part pour quelques rares cinglés qui s'intéressent à ce genre de vieilles cires. On commercialisait, on popularisait les ouvrages par le disque en faisant un digest, un pot-pourri de la pièce de A à Z, en deux faces. Et ce document qui m'a été fourni par un camarade collectionneur était extrêmement intéressant et je me suis dit que j'allais le porter à Canal Academy
donc
pour
un
le
inédit.
Faire découvrir. Voilà, c'est un inédit.
Merci à vous.
Il est charmant, tu as sûrement raison. Je suis mes belles, nouveau modèle. Dernier cri de la saison. Sans le faire à la pause, je vous déclare que j'ai pratiqué déjà toutes les poses que l'on connaît à ce sujet. Et je crois pouvoir dire chacun sa prétention, que toutes les fois je m'en tire en donnant pleine satisfaction. Pour l'amour, je me sens des dispositions. À Citer, j'ai pris des leçons. Je suis même allé à Singapour. Pour l'amour, je me sens tellement en effet fait. Pour vous plaire, je veux bien faire nuit et jour l'amour.
Pour l'amour, j'ai des dispositions. À Citer, j'ai pris des leçons. Il a même à Singapour.
Christophe Mirambeau, venons-en à l'art d'écriture d'Albert Villemette, un art qui n'en a pas l'air, puisque les paroles de ces chansons sont passées dans l'imaginaire populaire. Pour citer Jean Cocteau, lui-même a dit à propos d'Albert Wilmette qu'il a réussi ce tour de force auquel on rêve, être un troubadour dont on se demande s'il existe, tellement ses rimes courent les rues et prêtent une langue à ceux qui n'en ont pas. Alors, pour en venir à votre travail exactement, qui est répertorié dans ce livre, vous décrivez déjà ce qui se faisait avant le travail d'Albert Wilmette, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale, et vous dites qu'à l'époque, il y avait trois sortes de compositions musicales, l'air, le couplet et la chanson. Albert Wilmette ne rentre dans aucune de ces cases, ça veut dire ?
Il rentre dans ces cases, mais il en modifie la nature. C'est-à-dire qu'effectivement, on a le couplet d'opéra comique, l'air d'opéra et la chanson de café concert. Et Albert Wilmette...
Plus les revues, c'est ça, qui sont...
Voilà, et en gros, même dans la revue, il y a des parodies d'air d'opéra, il y a évidemment des chansons de café-concert, puisque la revue et le café-concert sont quand même deux genres extrêmement proches, au moins avant 1917, dans la revue parodique. Et Albert Wilmette rénove absolument la manière de faire du texte sur de la musique, avec justement Fifi. C'est-à-dire que avant 1918, il est un jeune auteur, il travaille au ministère de l'Intérieur, il est secrétaire particulier de Clémenceau, il a son travail assuré, n'est-ce pas, parce que c'est son père Édouard Wilmette voulait bien qu'il fasse l'artiste, qu'il fasse l'auteur, mais enfin, il ne fallait pas en oublier pour autant les réalités quotidiennes, ce qui fait que au départ, il s'est appelé Albert Metzville. Bon, le décodage est quand même assez facile, mais il travaillait sous pseudonyme jusqu'en 1916, lorsqu'il écrit une revue avec Sacha Guitry. Et Wilmette s'écrit selon le modèle traditionnel de l'opéra comique ou du café-concert, c'est-à-dire qu'il fournit les couplets, le texte, et le musicien le met en musique. Voilà. Et puis, avec la guerre, on sent bien que les temps changent, que le 19e siècle est réellement fini avec la Grande Guerre. L'arrivée des Tommies et des GIs exporte en France une musique, le jazz, qui fait évidemment grosse impression sur les auditeurs français. Bien entendu, cette culture anglo-saxonne-là, ces rythmes syncopés, étaient déjà connus en France dès 1900 grâce à Harry Fraxon, le chanteur de l'Entente Cordiale, ainsi avait-il été surnommé, et à Christinet qui exportait des airs d'Angleterre et les adaptait à la mode française. Donc on dansait le cakewalk et on commence un peu avant-guerre à découvrir le foxtrot. Voilà. Et puis Wilmette se dit, bon, la vieille opérette telle qu'on l'a fait, ça peut plus marcher comme ça. Si on regarde ce qui se joue depuis 15 ans, c'est-à-dire depuis 1900, depuis les saltimbanques, c'est un peu la panique dans les théâtres. Rien ne marche réellement, mis à part les œuvres de Claude Terrasse, mis à part quelques œuvres musicalisantes de Pierre-Léon Flair, par exemple. Et il faut rénover tout ça. Et Wilmette, pris par ce mouvement récurrent très français de l'anglomanie galopante, vous savez, en France, au 19e et même au 20e, on a des moments d'anglomanie, dit, je vais faire du lyrics, je vais changer la manière de faire la parole chantée et du coup la chanson.
Lyrics qui est un mot anglais.
Voilà, et qui a été quand même introduit dans le dictionnaire sous le mot lyrique, mais qui est finalement très peu usité. On utilise toujours la version anglaise du mot.
Alors qu'est-ce que c'est un lyrique, voilà, selon Albert Wilmette ?
Alors selon Albert Wilmette, un lyrique, que contrairement au couplet où le parolier fournit au musicien le texte à mettre en musique, le lyriciste mettra en couplet, mettra en texte, une musique préexistante. Ce qui est une chose qui est habituellement pratiquée depuis un siècle dans la revue, naturellement, puisque la revue est en parodie. Toutes les chansons sont de la parodie, donc la musique est préexistante, et on fait un nouveau texte sur cette musique. Voilà. Oui. Eh bien, ce principe-là va être appliqué au théâtre.
Ce qui change tout dans le rendu, ensuite, le rendu final.
Naturellement, parce que on peut préméditer le style, le type de musique qui va être la couleur du spectacle.
Et on peut adapter le texte pour en faire des couleurs, pour colorer justement le texte suivant la musique. Et c'est une conception très anglo-saxonne, justement.
Voilà, et très très nouvelle pour la France, oui, évidemment. Il a eu certainement l'influence anglo-saxonne, mais c'est une idée qui lui est venue aussi de lui par la pratique. Il écrivait beaucoup de revues, il faisait beaucoup de parodies, et il sentait qu'il fallait faire changer les choses. Le jazz arrivait. Wilmette n'est pas musicien, mais il a un nez musical absolument imparable. Et il a le nez du succès. Il sait exactement ce qui va fonctionner. Et c'est ainsi qu'en 1918, à l'occasion d'une discussion avec Gustave Quinson, l'idée de Fifi naît.
Alors nous allons, pour savoir exactement de quoi nous parlons, nous allons entendre un court extrait qu'on va pouvoir analyser après. Alors, Christophe Mirambeau, qu'en est-il ?
Alors, qu'en est-il ? Donc, Gustave Quinson dirige à ce moment-là le Théâtre des Bouffes parisiens. Il est le directeur du Palais Royal depuis de nombreuses années. C'est un homme très très établi dans le métier. C'est un Marseillais, bon vivant, un peu maquignon sur les bords, qui a une idée commerciale extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a créé ce qu'on appelait le billet Quinson. C'est l'équivalent 20e siècle, enfin début de 20e siècle, de notre kiosque de la Madeleine, notre kiosque théâtre. C'est-à-dire qu'on vendait tous les jours, à moitié prix, des billets de spectacle pour le soir même, pour remplir les salles. Évidemment, Quinson a fait des fortunes avec ça, a fait marcher les spectacles, et a embarqué peu à peu tous les théâtres de Paris dans le système des billets Quinson. Donc Quinson est quelqu'un de très 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 pragmatique, qui a des velléités comme ça d'auteur dramatique et d'artiste. Et pendant la guerre... Il est donc directeur des bouffes et il a, pour échapper aux assauts de la Grosse Bertha, il a acheté un petit sous-sol qui s'appelle le Théâtre de l'Abri, où il donne régulièrement des revues et des spectacles. Et puis, en 1918, bon, Villemette vient de sortir d'un grand succès au Théâtre du Vaudeville, la revue de Paris, et il est en train de faire jouer une revue à l'Abri, et... Avec son copain Fabien Solard, Villemette a quand même envie de faire une parodie à l'antique, à la manière d'Offenbach, sur un sujet, d'écrire une opérette comme ça, sur Phidias. Et il propose le sujet à Quinson. Quinson dit d'accord, allez, on va le faire au Théâtre de l'Abri. Attention, j'ai pas d'argent. Donc, il y aura 7-8 musiciens à tout casser. J'ai pas d'argent, je peux avoir que très peu de choristes, donc il y aura que 4 filles. Alors attention, je les veux. Un peu à poil, un peu sexy, un peu comme à la revue, et il faut que ce soit coquin et un peu leste. Très bien, ce n'est pas pour déconvenir à Villemette, et Villemette se met à l'écriture, et il commence à écrire une parodie de l'histoire de Phidias et Aspasie. Voilà, Villemette, extrêmement lettré, latiniste, d'une culture absolument immense, se lance là-dedans sur l'idée qu'il a eue avec Fabien Solard. Et il écrit son Fifi. Et puis il y a un problème, comment faire la musique ? Qui pour la musique ? Et Villemette, par carriérisme, par idée de nouveauté, se dit « je vais faire appel à Henri Christinet ». Henri Christinet est une mégastar de la composition, de la chanson de café-concert. On lui doit énormément de succès de Fraxon, énormément de succès de Mayol.
Et donc dans ce cas-là, les paroles ont été créées d'abord et la musique après.
Non.
Dites-nous tout.
Non, c'est bien plus compliqué que ça, c'est ça qui est rigolo. Et alors donc il commence à écrire son petit machin et il câble à Christinet, on fait un spectacle au bouffe, vous êtes engagé, bon, et c'est un gros bluff de la part de Villemette, mais Christinet marche et monte à Paris. Et là, il découvre que la pièce va être pour le Théâtre de l'Abri, et non pas pour les bouffes, mais, peu importe, il a plein de rythmes nouveaux à faire entendre. Christinet fait entendre ses airs à Villemette, qui choisit les airs, et il commence à paroliser la partition de Christinet. On commence à entendre les répétitions, c'est drôle, ça plaît beaucoup plus à Quinson que ce qu'il n'aurait pensé. Il décide de sortir, de déprogrammer du Théâtre de l'Abri la pièce et de la mettre sur la scène des bouffes. Il faut faire ça très 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 vite parce que c'était un tout petit format. Donc il faut réorchestrer rapidement pour quelques musiciens de plus et rajouter des filles. Rajouter du décor qui n'était pas prévu parce que le Théâtre de l'Abri était vraiment un espèce de mouchoir de poche. Enfin, imaginez une cave aménagée en théâtre. Hein. Et rajouter du costume, bon. Et à la première de ce spectacle, c'est un triomphe. On découvre les nouveaux rythmes entendus pendant la guerre. Et l'opérette n'est plus ce qu'elle était auparavant. On se retrouve dans une parodie mythologique comme chez Offenbach, mais avec du jazz dedans.
Donc, pour revenir sur l'extrait que nous venons d'entendre, comment est-ce qu'on peut analyser alors ? Est-ce que vous vous souvenez des paroles ?
Moi, je me souviens, bien sûr, quand même.
Vous les avez sous les yeux, oui. C'est pratique.
Oui, moi je triche, j'ai le droit. Oui, alors cet extrait que nous avons entendu est le cœur d'entrée des modèles de Fifi. C'est vraiment l'ouverture de rideau où on a 7 modèles à moitié nus, qui sont donc les espèces de muses de Fifi, et qui chantent « Oui, nous sommes les petits modèles, à notre atelier toujours fidèle, nous posons les statues, eux, chez Monsieur Fifi. Hélas, nous n'en aurons pas la gloire, c'est le patron qui sera connu de l'histoire, entre nous, c'est notoire, il en aura tout le profit, Fi. » Voilà. Et ce petit exemple que nous avons entendu est tout à fait significatif de comment on écrit des lyrics.
Pourquoi ?
Si on examine la versification, on s'aperçoit que tous les vers sont absolument hétéromètres, les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on a 10 pieds, 10 pieds, 12 pieds. Sur le vers, nous posons le statut chez Monsieur Fifi dans une organisation en 7+5. Ensuite, on a un 10 pieds, mais qui est en réalité un 13 pieds déguisé, puisque c'est le patron qui sera connu de l'histoire. Tout ça marche en contraction de café-concert. Entre nous, c'est notoire, 7 pieds, il en aura tout le profit, Fi. On a 9 pieds, 8+1, et du coup, on a déjà, rien qu'en regardant le nombre de pieds par vers, une petite lumière qui s'allume et on dit, tiens, dans la chanson traditionnelle, qu'est-ce qui se passe? En général, on a une hétérométrie, une égalité parfaite du nombre de pieds. C'est des alexandrins, des octosyllabes, des décasyllabes, et on a ça par couplet, par refrain, ou des fois on a, on va dire, un refrain en octosyllabes et un couplet en alexandrin.
Du coup, ça apporte un rythme...
Ça apporte un rythme nouveau parce que on a une espèce de souplesse qui suit complètement la partition, et la coupe de la musique, la coupe des vers ne se fait plus selon un principe purement intellectuel et théorique, mais se fait selon la coupe musicale, c'est-à-dire que c'est l'accentuation de la phrase musicale à chanter qui donne la coupe du vers. Voilà. Et alors, toujours dans ce petit exemple, on voit qu'il y a des tas d'astuces pour pouvoir faire rentrer les mots quand on n'en a pas assez sur la musique. De la même manière que quand on en a trop. C'est-à-dire qu'on a vu les contractions très habituelles au café-concert sur « c'est le patron qui sera connu de l'histoire ». Mais par exemple, « il en aura tout le profit, Fi », Wilmette est obligé de rajouter une syllabe sur la conclusion musicale du vers du refrain de Christinet, de la phrase de refrain de Christinet. Et donc, il rajoute un « Fi », l'interjection traditionnelle. Et on va trouver comme ça, tout à coup, chez Wilmette, tout le temps des petites interjections.
Des «
Ah », des « Fi », des clins d'œil de remplissage, comme ça. Très utile. Et il joue en même temps, il profite du côté jazzy qu'on entend dans la partition pour l'accentuer en rimant, en faisant rimer des choses qui prosodiquement ne sont inrimables. Il accentue par des appuis de français des choses qui ne sont pas très orthodoxes. Par exemple, il fait rimer l'histoire re en appuyant sur le re. Entre nous, c'est notoire re. Les re, évidemment, selon la règle unique de prosodie française, n'étaient pas à accentuer. Et tout d'un coup, on a un effet jazzy encore plus fort. Et il appuie, comme ça, de manière très 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 nette, le caractère nouveau, musicalement décalé et syncopé, de la musique de Christinet.
Du coup, une musique nouvelle, puisque la musique qui l'accompagne est un peu transformée en fonction aussi de ce qu'il écrit lui, des paroles qui sont écrites de façon nouvelle. Est-ce qu'on peut donner un nom à ce style ? C'est pas de la chanson réaliste, ça se rapproche, vous dites parfois dans votre livre, du théâtre de foire du 18e. Ça, c'est plutôt sur la forme.
Oui, c'est plus sur la forme, le théâtre de foire. Mais
c'est pas de la chanson réaliste réellement.
Non, c'est pas de la chanson réaliste. J'aurais tendance à appeler ça de la chanson de théâtre, tout simplement. Ouais. Sans la catégoriser de manière définitive, parce que il y a tout un tas de types de chansons qu'on peut retrouver dans les ouvrages. On peut avoir effectivement une parodie de chanson réaliste, mais on peut avoir à côté une valse très glamour. Donc donner comme ça une étiquette, mettre tout dans des tiroirs, est un peu difficile. Je pense que le terme générique de chanson de théâtre pour la scène est quelque chose qui marcherait assez bien avec ça.
Et une chanson plutôt légère sur son fond, on arrive tout de même à dégager des thématiques.
Ah oui, bien sûr, parce que bon,
ça s'inscrit dans une époque.
La particularité de Wilmette, évidemment, c'est d'être infiniment spirituel et de marcher avec son temps. C'est-à-dire que le vrai souci, la grande affaire du moment, c'est quand même le sexe.
Déjà à l'époque ?
Ah bah oui, bien sûr. C'est une époque d'une infinie liberté. C'est donc le grand sujet qui occupe le théâtre. Donc effectivement, les thématiques sont très très légères. Par exemple, on a entendu un extrait d'Amphiphie de l'ère d'Ardimédon. Déjà, le nom du personnage d'Ardimédon est aussi évocateur que le Metella de la vie parisienne d'Offenbach. Voilà.
Et il y a des sujets plus graves aussi, comme celui du chômage, du syndicalisme.
Il y a des sujets plus graves, plus étonnants. Par exemple, il y a une pièce en 1937 au Bouffe Parisien qui s'appelle « Rien qu'un baiser », que, à titre personnel, je trouve extraordinaire, qui est une pièce d'origine hongroise, et qui est un manifeste à propos de la non-consommation du mariage. C'est-à-dire que c'est une dame qui s'est mariée avec un monsieur qui n'a pas consommé son mariage et qui demande le divorce pour cette raison, arguant du fait qu'elle aussi a droit au bonheur. Voilà. Et je trouve ça extrêmement moderne. Évidemment, tout ça est traité de manière fantasque, mais avec beaucoup de fond et de sens et d'humanité dans ce que ça demande. C'est pas simplement une gaudriole comme ça pour faire rigoler avec un alibi sexuel.
Là, nous allons entendre un extrait de Florestan, prince de Monaco.
C'est une chanson extrêmement célèbre qui s'appelle « Amusez-vous, foutez-vous de tout ». C'est le genre de thématique que développe Wilmette, un goût pour la désinvolture. C'est-à-dire, il se fout de tout, tout en ne se foutant de rien. C'est la vraie désinvolture parisienne. Et de la même manière qu'il a fait un triomphe à Maurice Chevalier en lui écrivant « Dans la vie, faut pas s'en faire », Wilmette s'en fait quand même, mais prône la joie de vivre, prône le détachement et insiste finalement toujours dans ses ouvrages sur l'idée du rien n'est grave, parce que toutes les histoires sont organisées autour du contraire de la réalité, c'est-à-dire que dans la réalité, le chômage, les grèves, les grèves syndicales, les charges de la police contre les syndicats, tout ça sont des choses graves et sont traitées en deuxième degré sur le mode rigolard, tandis que qui va coucher avec qui va dépenser l'argent de qui, tout ce genre de petites choses devient le concernement majeur des personnages de Wilmette. Voilà. Et il tourne comme ça, ainsi, dans Madame, en 1923. Il utilise comme parti pris d'écriture, comme base d'écriture et de réflexion amusée, le du mariage de Léon Blum. Et de la même manière que Léon Blum raconte comment il serait bon que l'époux teste l'épouse avant le mariage et que l'union libre pouvait avoir certains avantages avant de passer la bague au doigt définitive à sa promise, c'est une chose que Wilmette réutilise dans l'opérette, dans la fantaisie, dans Madame, où il s'agit effectivement de se tester avant le mariage, et prenant le contre-pied de certaines idées de Léon Blum, tout en les traitant avec extravagance et tous les développements fantaisistes et spirituels possibles.
Que ce serait charmant sur terre, un pays où les gens ne viendraient que par plaisir pour se distraire, où dans ce but tout serait fait. Combien ça serait sympathique, un pays où l'on ne s'occuperait ni d'affaires ni de politique, où sans arrêt on se reposerait. Et vraiment quelle joie souveraine quand on est prince de Monaco, de pouvoir dire à tous ceux qui viennent de Londres ou bien de Chicago. Amusez-vous, foutez-vous de tout, la vie entre nous est si brève. Amusez-vous comme des fous, la vie est si courte après tout. Car l'on n'est pas ici pour se faire du souci, on n'est pas ici-bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous de tout, la vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout, prenez la vie par le bon bout.
Christophe Mirambeau, on entend certains extraits du début de la carrière d'Albert Wilmette. Est-ce qu'il a utilisé les mêmes méthodes dont on parlait au début de l'émission pendant toute sa carrière? Est-ce qu'il y aura des évolutions? Il va bien sûr s'adapter à différents styles.
Et à différents compositeurs, forcément. Le style, la façon de faire.
Aux comédies musicales, à
voilà,
des opérettes.
Évolue forcément, au cas par cas, selon le compositeur qu'il choisit, selon le théâtre qui lui demande une pièce, selon le style de spectacle qu'il a envie de faire. Alors, c'est relativement simple. Par exemple, au Bouffe Parisien, qu'il va co-diriger à partir de 28 avec Gustave Quinson, puis diriger intégralement à partir de 30. Au Bouffe Parisien, il est clair que le genre est commercial. Il faut faire de l'argent. Et donc, les ouvrages sont formatés, selon une formule inventée par Wilmette avec Fifi, pour faire du chiffre et pour vendre du papier, c'est-à-dire du papier musique, hein, vendre des partitions, puis vendre des disques. Voilà. Ainsi, dans les pièces, c'est très intéressant de voir comment il arrive à faire du bon lyrique, du bon travail, du bon théâtre, quelque chose de réellement divertissant, sans perdre de vue les impératifs commerciaux que lui imposent Gustave Quinson et Francis Salabert, le grand éditeur qui a pris à l'édition Fifi et qui ensuite le suivra sur toute sa carrière. C'est-à-dire, par exemple, petit exemple, tous les finales sont ce que j'appellerais les finales récapitulatifs, où on reprend les musiques, les airs entendus pendant l'acte, que l'on tricote à la manière d'une revue en enchaînement sur l'air 2 pour le final de l'acte, avec de nouvelles paroles, mais qui reprennent le refrain, puisque c'est une des caractéristiques des lyrics, c'est aussi que le premier vers de refrain soit toujours une expression. C'est-à-dire, comme dans Trois jeunes filles nues, en 1925, une expression qui est devenue tout à fait courante en français. Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo? C'est est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo? Si ta petite sœur est grande? Si ton petit frère a un stylo? Bon, c'est une expression. Quand on n'en a pas, on s'en passe. Et dans la vie, faut pas s'en faire. Voilà, c'est le principe du lyrique. Et donc, les refrains sont toujours reconnaissables dans le final. Il se passe quoi? Baisser le rideau, n'est-ce pas? Et le public part au foyer ou dans le hall. Et là, paf, on a une petite boutique Salabert qui vend les disques Salabert, les partitions, l'intégrale. Et voilà.
Donc
et
une quand stratégie commerciale.
C'est une stratégie commerciale qui, des fois, va très très loin, par exemple, au Théâtre des Capucines.
Est-ce que c'est le premier à mettre en place cette stratégie commerciale, d'après vous?
Oui, absolument. Absolument.
Qu'on retrouve aujourd'hui, évidemment.
Dans Notre-Dame de Paris, la stratégie commerciale de Notre-Dame de Paris n'est guère autre chose qu'un substrat de cette stratégie commerciale-là, même si les gens qui ont fait Notre-Dame de Paris n'étaient évidemment pas forcément au courant de la stratégie mise en place par Wilmette, Quinson et consorts à ce moment-là.
Aussi doué qu'Albert Wilmette.
Non, je ne dirais pas ça, c'est simplement une question de connaissance, mais finalement, on reproduit toujours la même chose. Et aux Capucines, par exemple, qui est un ravissant petit théâtre qui est maintenant le musée des parfums, pour Quand on est trois, à l'entracte, on avait le compositeur Joseph Schulk au piano qui jouait les chansons de la pièce avec un karaoké, une projection sur l'écran des paroles pour que la salle chante en même temps. Tout ça étant évidemment relié à la vente matérielle de choses reliées au spectacle. Pour Tabouche, la création Odonou en 23, il faut imaginer qu'à chaque chanson descendait du cintre un panneau comme au Théâtre de la Foire avec le texte du refrain que chantait Victor Boucher ou n'importe qui sur scène, pour que les gens dans la salle chantent à un endroit donné, et précis selon les canevas et les codes du genre à ce moment-là, chantent avec les acteurs sur scène. Voilà.
Il y a des enregistrements de ces représentations, on entend le public?
Non, et c'était impossible puisque en 1923, l'enregistrement électrique n'existait pas d'une part, donc on était encore devant le gros tuyau devant lequel il fallait gueuler avec un orchestre de cuivre derrière pour pouvoir faire de la gravure, donc l'enregistrement live, hélas pour nous, n'existait pas. Donc pour les bouffes parisiens, on a ce type de spectacle, d'opérette commerciale, qui n'empêche pas leur brio et leur efficacité, bon, et leur intérêt, évidemment. D'où tout le côté passionnant de ce répertoire, naturellement. C'est fait pour faire de l'argent, mais de manière réussie. On a le Théâtre du Châtelet, où Maurice Lehmann l'appelle avec André Mouezi-Éon lorsqu'il prend la direction en 1929 du Théâtre du Châtelet, où il faut faire du grand spectacle populaire à multiples changements de décors, de grandes histoires qui reprennent la tradition du Châtelet, c'est-à-dire de la féerie, qui font voyager dans le monde entier, où là, le mot d'ordre est, attention, public populaire, pas de deuxième degré trop fort, il faut que tout le monde comprenne, et pas de, passez-moi l'anglicisme, de private jokes sur les acteurs, sur des choses très parisiennes, qui ne passeraient pas au public qui vient de province et qui vient des milieux populaires français. Donc, le principe de rime, c'est amour toujours. Pas de rime sophistiquée, pas de double rime, pas de rime bâtelée, et quelque chose de très très simple. Voilà.
C'est la consigne du Théâtre du Châtelet.
C'est une consigne. Quand Wilmette travaille pour Léon Volterra à Marigny, pour Coup de Roulis, ou à la Michaudière pour Passionnément, il travaille avec André Messager, qui est le maître, c'est le créateur de Péléas et Mélisande. Il a accepté Péléas en 1902 à l'Opéra. De comique, donc c'est vraiment une figure énorme de la musique française d'alors. Maître Messager travaille à l'ancienne, c'est-à-dire que Albert Wilmette fabrique des couplets. Il écrit ces couplets que Monsieur Messager mettra ensuite en musique.
Donc là, Albert Wilmette va dépasser, va transcender un peu cette consigne du Théâtre du Châtelet.
Du Théâtre du Châtelet et du Théâtre des Bouffes, c'est encore une troisième voie dans laquelle il s'engouffre.
Et au-delà de toute la stratégie commerciale qu'on a vue auparavant, est-ce que Albert Wilmette a des héritiers, dans le sens où est-ce que sa méthode de travail a révolutionné la façon de faire des chansons? Est-ce que tout le monde va l'imiter après?
Oui, c'est-à-dire qu'il l'a généralisé très très vite. Tout le monde copie le style des opérettes mises à la mode par Vinmetz. C'est-à-dire que le jazz devient roi au théâtre et tout le monde se met à faire du théâtre musical dans les années 20. Je me souviens...
À la suite d'Albert Vinmetz.
Oui, tout à fait. Je me souviens d'une lettre furibarde dans Le Temps, dans une petite chronique d'André Antoine, reprochant au directeur parisien de ne faire que du théâtre musical et tout. Et André Messager lui fait un droit de réponse en disant « Mais maintenant, on se calme. Il y avait deux fois plus de théâtres musicaux à Paris il y a 40 ans. Le seul problème, c'est quand vous savez qu'à Paris, en 1924, il y avait 28 théâtres musicaux qui jouaient de la comédie musicale, ça laisse absolument rêveur. » Voilà. Quand désormais il n'y en a plus du tout, c'est quand même très très amusant de voir comment à un siècle, les traditions changent, évoluent, se modifient.
Christophe Mirambeau, pour revenir sur votre travail à vous, sur votre objet de recherche, vous avez d'abord écrit un livre sur le Moulin Rouge, ensuite sur Luis Mariano, voici donc un ouvrage sur Albert Vinmetz. Vous préparez donc, vous avez dit tout à l'heure, un autre ouvrage. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement? C'est la période d'entre-deux-guerres? C'est...
Oui, c'est la richesse de la période, la liberté de ton, battre en brèche le nombre incalculable d'idées reçues que je juge totalement imbéciles, qui peuvent courir ça et là sur l'entre-deux-guerres, sur ce concept stupide d'années folles. Ce sont des années qui ne sont pas folles du tout. Enfin, quand on voit ce qui se passe socialement, c'est une époque d'une dureté effrayante et elles ne sont folles que pour 40 happy few à Paris. Donc c'est assez intéressant et c'est encore une période bâtarde, comme les œuvres qui font appel à plein de paramètres différents et qui du coup permet toutes les tentatives, toutes les folies, tous les essais, y compris de les rater, et d'explorer. C'est une période que l'ombrageuse vertu d'après-guerre a occultée. C'est une période de liberté de ton, où on a le droit de dire ce qu'on veut, comme on veut, du moment qu'on n'embête pas son voisin, et qu'on reste dans une certaine bienséance, évidemment. Et c'est une période où l'esprit est à l'honneur. Voilà. C'est une période où l'intelligence est une vertu première qu'il convient de faire progresser. Et c'est pour ça que je m'intéresse à cette période-là et donc, mes prochains ouvrages.
C'est ça, votre prochain ouvrage sur le musical, vous avez dit?
Mon prochain ouvrage sur ce sujet-là sera consacré à une biographie d'Yvonne Printemps.
D'accord. Ouais. Alors, en attendant cette biographie-là, je rappelle le titre de votre ouvrage que nous avons commenté aujourd'hui, qui a reçu la médaille de la Fondation Torlet. Albert Vinmetz, Un regard dans le siècle. Il est paru en 2005 aux éditions La Rampe. Merci Christophe Mirambeau d'être passé dans le studio de Canal Academy aujourd'hui. Bonne journée à l'écoute de nos programmes.
Merci beaucoup à vous.
Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas.